Alors, on continue sur la vie de David. Donc, on a commencé il y a 15 jours, on va poursuivre. Alors, ce matin, on va prendre un récit qu'on connaît bien pour la plupart. Vous l'avez entendu à l'école du dimanche par cœur. Maintenant, vous le savez, vous pouvez même le raconter avec force de détail. Si vous êtes des petits garçons, peut-être ça vous a plus touché encore que les petites filles, j'imagine. Mais toutes les vérités spirituelles d'une histoire biblique ne sautent pas aux yeux du premier coup. Hein. Parfois, eh bien, il faut des années, puis on relit, puis on voit autre chose, et puis on découvre encore autre chose. Et pour les vérités spirituelles que nous connaissons déjà, eh bien, Dieu veut nous les répéter. Pourquoi ? Parce que nous sommes des passoires. Dieu nous couvre avec ses vérités, puis elles glissent. Donc, il nous les rappelle sans cesse. Ça, c'est son plan. Son plan pour nous protéger, pour nous garder hein, et nous aider à progresser. Donc, on va lire l'histoire de David et Goliath. 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel 17. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azekah à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5 000 sicles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 sicles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Éliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ses 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier, tu verras si tes frères se portent bien. » Tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva donc de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui
qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain, le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ? » Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur, Isaïe, bethléhémite. » Alors, au début du chapitre, on voit, on vient de lire que Israël a un gros problème ou un grand problème devant eux, c'est qu'il y a un géant parmi les Philistins. Alors, Moïse a déjà parlé dans le Deutéronome, donc dans le tout début de la Bible, il a parlé d'un peuple grand, nombreux et de haute taille. Certains les appelaient les Émimes, d'autres les appelaient les Anakim. Et puis si on avance, donc on est dans le Deutéronome, dans la Torah, on avance dans le livre suivant, dans Josué. Et là, dans Josué, il est dit qu'il les extermina. Il est écrit « Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël, il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. » On avance près de 2 siècles plus tard, et c'est justement de Gath, là où il en restait, de Gath que vient notre homme. Alors, verset 4, nous lisons « Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. » Et là, c'est ce qu'on appelle un problème de taille. Si on fait la mesure, à peu près, hein, c'était dans les 3 mètres de hauteur. Là, on est au plafond à 3,50 mètres, j'imagine, donc il n'était pas loin des poutres là. Vous voyez un peu le colosse qu'il était. Alors nous, en plus, petits Français, ça fait encore plus grand. Enfin, peut-être moi, en tout cas. Mais on n'est pas dans un récit imaginaire, dans une belle histoire pour les enfants, même si les enfants aiment bien. Ça n'a rien d'une fable. Et même aujourd'hui, il y a encore des hommes qui sont très, très grands. Pas simplement des basketteurs de 2,5 mètres, hein, mais des gens qui sont gigantesques. Alors, c'est vrai que c'est souvent un problème. Par exemple, il y a au début du 2e siècle, un Américain qui est né avec un poids normal. Il naît 3,85 kg. Alors, je ne l'ai pas noté, mais il me semble qu'à 8 ans, il faisait dans les 1,70 m. Donc, il faisait ma taille à 8 ans, donc à l'âge de ma fille. À 22 ans, il pesait 200 kg et faisait 2,72 m. Donc là, on n'est pas loin d'un Goliath, hein, 2,72 m. Alors actuellement, c'est un Turc qui détient le record, 2,51 m. Et si vous cherchez, hein, vous voyez qu'il y a eu toujours des hommes grands. Alors c'est sûr, c'était problème de santé. Soit c'était génétique, soit c'était dû à une hormone de croissance qui ne s'arrêtait pas. Alors eh bien, il grandissait. Mais il y a eu aussi des personnes très grandes qui ont vécu jusqu'à une 50aine d'années, donc d'une manière normale. Et donc, il y avait cette taille, c'était quelque chose d'impressionnant. Et il y a eu clairement des géants qui étaient sur la terre, la Bible en parle. Et donc, il n'y a rien d'anormal ici à voir cet homme qui était très grand. Mais il n'y avait pas que sa taille qui impressionnait, c'était aussi toute son armure en fait, tout son équipement qui impressionnait. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà un casque d'airain. J'imagine beaucoup plus grand, avec une tête beaucoup plus grosse. Il avait ensuite une sorte de cotte de maille, une cuirasse d'écaille, qui pesait à peu près dans les 80 kilos. Donc, elle pèse pour les plus lourds de certains d'entre nous, là. Il avait aussi des protections d'airain sur ses jambes, et puis un javelot d'une 12aine de kilos dans le dos. Pas mal, hein, pour le prendre comme ça. Ajoutez à ça un grand et large bouclier qui était porté par un serviteur et puis une épée qui est nommée dans la fin du récit. Alors vous imaginez un colosse comme ça, équipé comme ça, agressif et qui va vous tuer, qui vous fonce dessus. Et de l'autre côté, eh bien le récit nous parle d'un jeune homme qui lui sort de l'adolescence, il est normal. Sort de l'adolescence, il est, j'imagine, pas très grand, beau, de belle figure, et il n'a qu'une fronde, une gibecière, quelques cailloux. Ça semble vraiment dérisoire à côté de l'autre colosse. Et cependant, j'aimerais qu'on parle de l'armure. Pas de l'armure de Goliath, mais de l'armure de David. C'est le titre de mon message ce matin, l'armure de David. Parce qu'il avait une armure invisible. Le premier élément de son armure, c'était une cuirasse aussi, une cuirasse d'écailles qui le protégeait, mais elle ne faisait pas 80 kilos, elle était très très légère, et sa cuirasse, c'était son innocence. La première chose qu'on voit, il est protégé par son innocence. Lorsqu'il dit qu'il va, lorsqu'il va retrouver ses frères sur le champ de bataille, très rapidement, il va être pris à partie par Eliab, son grand frère. Au verset 28, il est dit « Eliab, son frère aîné qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Donc, Eliab, son grand frère, le dépeint comme quelqu'un qui est orgueilleux et quelqu'un qui a de la malice, de la méchanceté dans son cœur. David aurait laissé son travail, il aurait laissé sa responsabilité, et puis il serait venu uniquement parce qu'il avait envie de voir la bataille. J'ai lu un commentaire de quelqu'un qui était plus versé que moi, je ne sais pas, j'ai pas fait d'hébreu, mais lui disait qu'on pourrait le traduire comme « c'est pour être vu dans la bataille que tu es descendu ». Donc, ça va dans le même sens, hein, encore de l'orgueil. Et donc, il est jugé coupable. Bon, il faut se souvenir d'Eliab. Eliab, quand Samuel est entré dans la maison, Samuel s'est dit « Ah, certainement, c'est lui, loin de l'Éternel. » Et puis, Dieu lui dit non. Alors, il se détourne d'Eliab et puis finalement, il se tourne vers le petit dernier et c'est lui qui va oindre avec sa fiole d'huile et donc donner l'onction à David. Et certainement, c'était difficile à avaler pour Eliab. Alors ici, il va le charger au maximum. Mais David a une cuirasse qui le protège, c'est son innocence. Et il faut aussi se souvenir que c'est son père qui l'a envoyé, c'est pas lui qui est venu de sa propre autorité. Son père a dit, « Tu verras si tes frères se portent bien, tu me donneras des nouvelles sûres. » Et en fait, finalement, David va faire exactement ce que le père lui demandait. Il va partir avec zèle pour faire ce qui était demandé. Et ça, c'est la première chose même qu'il va faire sur le champ de bataille. Dès qu'il arrive, regardez verset 22, « David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. » Et notez ici le « aussitôt arrivé ». Dès qu'il arrive, première chose qu'il fait, aussitôt, ça fait penser à aussitôt dans l'évangile de Marc, quand c'est Jésus. Aussitôt, Jésus fit ceci. Aussitôt, il fit cela. Eh bien ici, de la même manière, David, aussitôt, va faire ce que son père lui demandait. Pour nous, ça nous rappelle aussi hein, que Dieu nous demande l'obéissance et qu'on puisse faire aussitôt ce que Dieu, notre Père, nous demande. Et ce qu'on voit, c'est que David est innocent des accusations de son frère. Il va aussi l'accuser d'avoir abandonné ses brebis. Mais c'est pas vrai. Il est dit qu'il a laissé les brebis à un gardien et puis après, il est parti. Donc, c'était pas vrai. Il n'était pas négligent, irresponsable. Et on peut dire que David avait comme cette cuirasse légère de l'innocence qui le protégeait. C'est la première chose. La méchanceté d'Eliab ne pouvait pas l'atteindre. Ensuite, la deuxième chose de son armure invisible, c'est ses protections aux jambes. Il avait des protections aussi, finalement, exactement comme Goliath. Pourquoi ? Parce que David était un homme qui était à genoux. Eliab va le décrire comme quelqu'un d'orgueilleux qui est venu simplement pour se mettre en avant dans la bataille. Mais au contraire, quand on lit le récit, on voit que David n'était pas du tout ce que Eliab décrivait. Pour le voir, il faut reculer un petit peu en arrière. Avant cette guerre contre les Philistins, donc il y a 15 jours, on a lu ce texte, David va être sollicité pour jouer de la harpe devant Saül. En 1 Samuel 16, verset 21, donc dans le chapitre un peu avant, il est écrit « David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et fut désigné pour porter ses armes. » Donc non seulement David devait calmer un Saül qui était tourmenté, donc en lui jouant de la harpe, peut-être en lui chantant des psaumes, mais aussi il devenait l'homme qui allait porter les armes de Saül. Donc, ça veut dire quoi ? Goliath avait un homme qui portait son bouclier devant lui. Et Saül, maintenant, se choisissait cet homme pour que David, eh bien, porte les armes de Saül et donc qu'il soit dans toutes les batailles. Mais qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est que David n'est pas à la bataille. Il y a un combat entre Israël et les Philistins et David n'y est pas. Alors, on voit ici, il est retourné s'occuper des brebis de son père. Donc, on peut faire des hypothèses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Soit Saül lui a donné congé avant les hostilités. Il a dit, tu peux rentrer chez toi. Et dans ce cas, eh bien, peut-être on peut souligner que David n'a pas dit, mais si, je veux aller à la bataille, je porte tes armes, je viens avec toi. Non, il est rentré pour aller garder les brebis de son père. Soit c'est David qui a demandé congé, préférant aller s'occuper des brebis. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que David n'est pas l'orgueilleux qu'Éliab est en train de décrire. Et on voit que son humilité, elle est bien réelle. Si vous lisez toute la vie de David, vous voyez un homme qui était humble. Par exemple, le psaume 131 qu'il a écrit. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Et là, dans ce psaume, c'est le reflet de ce qui est dans le cœur de David. Il n'a pas cherché la royauté, même alors que, eh bien, elle lui était acquise, il n'a pas cherché, on est venu lui donner. Et quand il était oint, et donc il était déjà prédestiné à devenir roi d'Israël, il s'en est jamais emparé. C'est Dieu qui est venu lui donner, finalement, et c'est comme ça qu'il a pu l'avoir. Et donc, quand il dit, voilà, je ne m'occupe pas de choses qui sont trop grandes, qui sont trop élevées pour moi, c'était une réalité dans la vie de ce jeune homme, de David. Et l'humilité, elle est aussi une protection, une défense efficace. Ensuite, un troisième élément de son armure, pour prendre l'armure de Goliath, c'était son épée. Goliath avait une épée à la main et on peut dire, bien, David, d'une certaine manière, avait une épée aussi, une épée invisible. C'était son souci de la vérité. C'est ce qu'on voit dans le texte. L'enjeu était important parce qu'on entendait des bruits dans les rangs du peuple. On disait, c'est pour jeter à Israël un défi que ce Philistin s'est avancé. Mais si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Ça, c'était les paroles qui étaient en train de circuler. David arrive sur le champ de bataille. Il ignore tout. Il ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais il voit ce Goliath qui est en train d'haranguer Israël. Et il entend cette rumeur sur ce que Saül aurait dit. Voilà, c'est ce qui se disait. C'était comme un bruit qui courait. On est allé à une réunion de parents d'élèves cette semaine, donc pour Loïs. Et donc la directrice de l'école a pris la parole et elle a dit une chose intéressante. Elle a dit « Avant d'alimenter Radio Parking, s'il vous plaît, allez voir directement l'intéressé, la maîtresse, etc. Et » voilà. Cette expression « Radio Parking » que je ne connaissais pas, hein, mais qui est bien significative. Et c'est du bon sens, en fait. Allez voir à la source et chercher à comprendre. Et c'est quelque chose qui doit aussi nous animer. Nos pensées, elles doivent être vraies. Et pour qu'elles soient vraies, eh bien, il faut qu'elles aillent se reposer sur des choses qui sont vraies. Il faut avoir un souci de la vérité. Logiquement, qui devait s'opposer à Goliath ? Réfléchissez. Parmi tout Israël, qui était de haute taille ? Saül, il est dépassé tous d'une tête, il est dit. Donc lui, il faisait peut-être 2 mètres. Alors certes, ce n'était pas 3 mètres, mais ça devait être quand même quelqu'un imposant. C'était le roi, c'était un guerrier. Normalement, eh bien, il devait y aller, hein, montrer l'exemple. Et donc, c'était à lui, logiquement, de recevoir les honneurs d'avoir fait tomber Goliath. Mais Saül va se désengager du combat et il va essayer plutôt de trouver quelqu'un d'autre. Alors, ce qu'il va faire, il va dire, si quelqu'un le tue, ce Goliath, le roi le comblera. Je lui donnerai des richesses, je lui donnerai ma fille, et puis je vais l'exempter d'impôts à vie. Il sera tranquille et protégé. Alors, avec une telle récompense, peut-être qu'il se disait, bon, il y a bien quelqu'un qui va sortir du lot et qui va essayer d'aller tuer ce Goliath. Et ça, c'était quelque chose d'important à savoir pour David. Il voulait vraiment savoir si c'était la vérité, parce que David, là, il commence à être pris dans une fougue pour aller défendre son Dieu, défendre Israël. Mais si ce n'est pas vrai, si d'une certaine manière, il grille la place à Saül, alors, eh bien, ce n'était pas bien. Et donc, il veut absolument savoir. Versets 26 et 27. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Donc David entend une nouvelle fois. Mais est-ce que c'est bien vrai ? Est-ce que c'est... Oui, c'est sûr, quoi. Saül ne veut pas aller combattre lui-même et il va récompenser celui qui y va. Verset 30. Et il se détourna d'Eliab pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Oui, maintenant c'est sûr, c'est bien sûr, c'est la vérité. Et c'est important de tenir en main la vérité parce que la vérité est une arme qui est efficace. David va pouvoir maintenant s'avancer contre Goliath. Le quatrième élément de son armure, c'est un casque d'airain. Goliath avait son casque, et on peut dire que d'une certaine manière, David avait aussi son casque. Son casque, c'est quoi ? C'était sa mémoire. David avait une bonne mémoire. Lorsqu'il va s'avancer en disant qu'il irait se battre contre le Philistin, Saül va lui dire, regardez versets 33 à 36, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Et là, on voit David qui se souvient de ce que Dieu a fait dans sa vie passée. Il ne dit pas si un jour il a perdu une brebis dans un ravin. Il ne dit pas si un jour il y a une maladie qui en a décimé 4 ou 5. Il ne dit pas s'il a perdu une brebis qui était en train de mettre bas un petit. Toutes ces choses, j'imagine, des épreuves de berger, des difficultés, il en a vécu aussi. Mais ici, ce n'est pas ce dont il se rappelle. Ce dont il se rappelle, c'est de ses victoires. Il se souvient de ses victoires et des grâces que Dieu lui a accordées dans sa vie. Et c'est vrai que parfois, certaines personnes retiennent tous les problèmes et tous les malheurs qu'ils ont rencontrés au cours de leur vie. Et ils peuvent raconter avec des détails. C'était tel jour, je me souviens. Et puis, ça s'est passé comme ça. Et puis après, ben, voilà. Et puis, je me suis retrouvé le bec dans l'eau, et etc. Et on peut se souvenir de tout. Et puis, les bénédictions, les choses que Dieu a faites, parfois, c'est un peu plus flou. Alors, c'est peut-être parce que la souffrance peut marquer, parfois, plus qu'une bénédiction, je ne sais pas. Alors, c'est vrai, on ne fonctionne pas tous de la même manière, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu veut qu'on ait une bonne mémoire pour se souvenir de ses bienfaits, de ses délivrances, de ses grâces, de ses dons, de sa fidélité, de son soutien, de son amour. Le psalmiste dit « mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est le psalmiste qui s'exhorte lui-même, qui dit « il ne faut pas que tu oublies les bienfaits. Il ne faut pas que tu oublies toutes les délivrances que Dieu t'a déjà données, tout ce qu'il a fait dans ta vie. » Et je trouve intéressant qu'à la fin du récit, il est dit que David mit dans sa tente les armes du Philistin. Ça, c'est un jalon. C'est, voilà, je me souviens de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et voilà, est-ce que quelque part dans notre vie, il y a une pièce où, voilà, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu est telle délivrance. Ne pas oublier, avoir de la mémoire. C'est comme un casque qui nous protège aussi, on peut dire, dans nos pensées, se souvenir des bénédictions de l'Éternel. Ensuite, Goliath avait un javelot entre les épaules. Et David avait aussi un javelot, on peut dire, entre les épaules, une arme, c'était sa transparence. Ce que j'entends par transparence, c'est qu'il ne jouait pas un rôle, il était vrai. Alors Saül, peut-être pour se donner bonne conscience, lui a dit « Tiens, tu vas prendre mon équipement complet, je te donne tout ». Versets 38 à 39, il est dit que Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain, le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassait. Il s'en débarrassa, pardon. Et là, David s'est retrouvé avec tout l'équipement d'un vrai, guerrier de l'Éternel, hein, un vrai combattant de l'Éternel. Joshua, à la maison, quand il met sa cape, hein, quand il prend son bouclier et son épée, là, ça lui donne des ailes, hein, ça lui donne des ailes, il joue au chevalier. Et dans sa jeunesse, David, avec tout l'équipement du roi, il aurait pu aussi se prendre très au sérieux, hein, et se dire, ah, ça y est, c'est... J'y vais. Hein, jusqu'à présent, c'était des bêtes hein, qui s'attaquaient aux brebis, mais ça y est, maintenant, c'est moi qui peux y aller. Mais ce que l'on voit chez lui, c'était ce qu'il était réellement. Et c'est encore une arme que d'être soi-même et de ne pas essayer de jouer un rôle. De la même manière qu'il n'arrivait pas à marcher avec l'armure de Saül, nous, si on commence à jouer un rôle, on va être embêté. Ça ne va pas le faire. Comme on dit ici l'expression, hein, ça va nous gêner plutôt qu'autre chose. Il vaut mieux être soi-même. Être soi-même et rien cacher. Mieux vaut se présenter tel qu'on est. On est faible. Ben, voilà, on est faible. On a, voilà, parfois, on chute. Ben oui, voilà, on reconnaît. Être ce que nous sommes, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. C'est ça qui compte. Et David se retrouve nu en quelque sorte, simplement avec son bâton, ses cinq pierres, sa gibecière, sa fronde. Et ça peut sembler être une faiblesse de se mettre à nu, mais finalement, c'est une force. C'est une force. Et puis pour terminer, le dernier élément de l'armure de Goliath, c'était un bouclier immense que portait son serviteur. Et là, je fais le parallèle avec l'armure du chrétien en Éphésiens 6, où il est dit que voilà, Dieu nous donne le bouclier de la foi avec lequel nous éteindrons tous les traits enflammés du malin. Et David avait une foi inébranlable en son Dieu. Il a dit, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Donc, il s'est reposé entièrement sur son Dieu. Il n'a pas attaqué en son propre nom. Il ne s'est pas senti fort. Il ne s'est pas pris pour un vaillant combattant s'appuyant sur lui-même. Mais il s'est caché derrière l'Éternel en disant, « Mais c'est l'Éternel qui sauve et c'est à lui qu'appartient la victoire. » Parce que c'est vraiment à lui qu'appartient toutes les victoires. Et la confiance en Dieu est vraiment primordiale pour s'attaquer à nos géants. À un moment ou à un autre, dans nos vies, à chaque fois, c'est récurrent, on se retrouve devant un géant. Peut-être vous avez un géant en ce moment devant vous, peut-être vous en avez eu un, et puis maintenant c'est passé, vous en aurez un autre. C'est un géant dans la famille, dans le couple, il y a des géants. C'est un géant dans le travail, dans l'emploi, c'est un géant dans les études, à l'école. Un diplôme, c'est un géant dans une relation avec quelqu'un, c'est un géant dans une maladie, dans un handicap. Chacun a ses propres géants qui, au premier abord, semble complètement insurmontable. On se dit, mais je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas pouvoir le surmonter. Et on se demande comment on va s'en sortir. Et Israël était comme ça. Israël se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer devant ce géant? Dès que Goliath paraissait, Israël reculait, était vraiment dans la crainte. Et David, lui, il était simplement équipé de son armure invisible, naturelle, son armure qu'on pourrait dire morale et son armure spirituelle. Alors, il était protégé, et j'aimerais juste résumer par son innocence. Il est possible de faire des erreurs. Qui ne fait pas d'erreurs? Mais il avait quand même, eh bien, cette cuirasse, cette innocence qui le couvrait. Ensuite, il était protégé par son humilité. Il ne s'occupait pas de choses trop grandes pour lui. Il était soucieux de la vérité. Il balayait les on-dit. Il voulait savoir exactement. Il avait également une bonne mémoire. Il se souvenait des choses du passé. Il avait également une transparence. Il était lui-même. Et puis, enfin, il avait ce bouclier de la foi. Et ce bouclier de la foi, on peut dire, c'est ici le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce que notre puissance pour surmonter ce qui nous semble impossible, nos géants, elle réside dans la foi. Elle réside toujours dans la foi. Il est dit, sans la foi, il est impossible, impossible de lui être agréable. Impossible. Ça, c'est ce que Dieu nous dit juste avant de développer ce merveilleux chapitre sur les héros de la foi, dont David est nommé même. Donc, ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et dans tous ces héros, ce n'est pas qu'ils étaient parfaits. On voit même, il y en a, ils ont commis des erreurs, vraiment. Mais à un moment ou à un autre, ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont vraiment placé leur confiance en lui. Ils ont manifesté leur foi. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous. On peut souligner que face à ce géant, David est tout seul. Il descend, il n'y a personne avec lui. Tout Israël n'est pas juste à côté de lui pour dire « Allez, courage !» Non, ils sont loin derrière. Eux, ils ne descendent pas dans la vallée. Et c'est vrai pour tous les héros de la foi, et c'est vrai aussi pour nous. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des pas de foi qu'il faut qu'on fasse seul. Quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire à notre place. À un moment, il faut qu'on fasse le pas tout seul. Et c'est justement ce que Dieu attend de nous. C'est là où il veut qu'on fasse un progrès. C'est faire ce pas de la foi. Personne ne pourra le faire pour nous. Bien sûr, certains ont foi en nous, ils ont foi pour nous, ils sont sûrs que c'est possible, mais ça ne changera rien. Il faut quand même que nous, à un moment, on fasse ce pas de la foi. Dieu veut qu'on saute, on se jette à l'eau. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va développer dans notre vie notre confiance en Dieu. Et ça arrivera toujours. Sans cesse, nous serons replacés devant une circonstance où Dieu nous demande de faire le pas de la foi. C'est notre vie à tous. On en a tous besoin. On a tous besoin de grandir dans la confiance. Et c'est ce qui plaît à Dieu. C'est comme ça qu'on lui est agréable. Et donc, c'est sûr, c'est récurrent. Nous devons sauter par la foi, avancer. Mais c'est très important parce que la foi, elle va ensuite nous protéger un peu plus tard quand on va vivre des épreuves qui seront plus difficiles où là, eh bien, on pourra vraiment traverser parce que, ben, c'est sûr, la vie, elle nous réserve des choses et Dieu veut nous fortifier. David s'est jeté dans la bataille avec la foi d'un enfant. Mais sa foi a fait tomber le géant. Et on peut se dire, mais le géant de l'histoire, ce n'est pas Goliath, c'est David. C'est lui, le géant. Il a eu une foi incroyable. Il a réussi l'impossible. C'était l'impossible. Et c'est vrai que nous aussi, parfois, on se dit, mais je ne pourrais pas y arriver. Je ne vais jamais réussir à faire ça. Ou bien, on se dit, je ne pourrais pas accepter davantage. Ou bien, on se dit, c'est impossible, ça m'est impossible. Où on se dit, je ne le supporterai pas longtemps. Ça peut être à chaque fois notre géant. Mais l'histoire nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. C'était impossible, ça. Mais rien n'est impossible à Dieu. Si on marche avec lui dans l'innocence, dans l'humilité, dans la transparence, la vérité, dans le souvenir de ses bienfaits, on compte les bienfaits de Dieu, et dans la confiance, eh bien, il nous permet de faire des exploits. Notre géant tombera si on lui fait confiance, et plus le géant est grand, plus il tombera lourdement. Donc, qu'on puisse avancer avec espérance.